Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie. Aujourd'hui, avec moi, pour commenter cette 17e journée et ce premier multiplex de la saison, je vais avoir Corentin. Corentin, comment tu vas ?
Salut Dest, salut tout le monde, ça va très bien.
Nickel, et accompagné avec nous, Baptiste. Baptiste, comment tu vas ?
Salut Dest, salut Corentin, salut tout le monde. Ouais, tout va très bien, excité. Dernière journée en 2023. Et non, plutôt excité par cette fin d'année.
Nickel. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de deux matchs qui sont plutôt intéressants et qui sont plutôt à enjeu. Dans un premier temps, on va parler de l'Olympique Lyonnais face au FC Nantes. Et dans un second temps, on va parler de l'OGC Nice face au RC Lens. Et ensuite, on reviendra un peu sur l'actu européenne et on se fera un petit tour des stades pour justement cette 17e journée et ce multiplex. Alors juste pour vous mettre un peu dans le contexte, avec ce premier match l'Olympique Lyonnais face au FC Nantes, donc l'Olympique Lyonnais qui est sur deux belles victoires de suite, donc après avoir battu Toulouse, ils ont battu la semaine dernière Monaco sur un match sorti de nulle part avec un but en fin de match de Jeffinho. L'Olympique Lyonnais qui remonte, qui est actuellement 16e. En face, on a le FC Nantes. Le FC Nantes qui a perdu 2-0 face à Brest, qui n'a pas démérité, qui a fait un bon match, mais qui n'a pas réussi à concrétiser. Aujourd'hui, le FC Nantes est 11e. C'est une équipe de milieu de tableau. Voilà, elle ne bouge pas trop. Elle navigue toujours entre ses 9e, 10e, 11e, 12e places. Messieurs, on va commencer avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, est-ce que l'Olympique Lyonnais s'est mis enfin en mode survie ? Est-ce que le coach intérimaire de l'Olympique Lyonnais a trouvé la formule pour justement sauver Lyon de la relégation. On va commencer par toi, on va aller Corentin. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cet Olympique Lyonnais pour l'instant ?
Pour ma part, je ne sais pas s'ils ont trouvé la bonne formule, mais en tout cas, ils sortent enfin de la zone rouge après ces deux victoires. J'ai un avis assez contrasté sur l'Olympique Lyonnais. Pour les avoir vus à Lens avec leur nouveau coach, j'ai trouvé que c'était une équipe qui était quand même loin du niveau d'une équipe relégable. Ils avaient été battus 3-2 à Lens.
C'est ça.
Cependant, leur dernier match à Monaco, je comprends toujours pas comment ils ont réussi à gagner ce match. Tant Monaco a eu d'occasion et Lyon a galéré dans ce match. Cependant, j'ai quand même l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'au niveau des joueurs, notamment des cadres, il y a quand même du mieux, que ce soit, tu regardes en attaque, Lacazette, Nouama, qui, je trouve, monte en puissance. On retrouve un Tolisso qui est moins mauvais qu'il a été ce début de saison. Cacré, que je n'ai pas trouvé mauvais non plus contre Monaco, malgré la domination monégasque. Je demande à voir un peu par la suite. Je ne suis pas certain qu'ils soient totalement guéris de leurs maux. Cependant, je pense que ces deux victoires, notamment celle de Toulouse, leur a fait beaucoup de bien. Et voilà, je ne suis pas sûr que ce soit tant un électrochoc que ça, l'arrivée de leur coach en intérim, Pierre Sage. Je ne sais pas ce que Baptiste en pense, mais...
Ouais, Baptiste, on va te lancer. Toi, t'en penses quoi de ce que Cox a dit ? Est-ce que tu es du même avis ? On s'emballe peut-être un peu trop ou tu sens que il y a ce début d'électrochoc côté lyonnais. Juste pour préciser quand même, Lyon qui n'a pas pris de but sur les deux derniers matchs et qui est l'une des pires défenses de la Ligue 1 avec 27 buts pris. Je te laisse parler, Bat.
Moi je suis en partie d'accord avec Corentin, en partie seulement. La première partie en disant que les cadres vont mieux, je suis absolument d'accord avec ça. Et je pense que ça, c'est grâce à Pierre Lagenais, il l'a remis sur le terrain, ce que Grosso ne faisait pas. Moi, je pense que quand tu es dans cette situation-là, au plus mal, c'est dernier, que tu gagnes plus un match, si tes cadres ils sont pas avec toi, ça va être compliqué dans le futur. Donc, moi, ce que je trouve déjà bien qu'a fait Pierre Sage, c'est d'avoir remis les cadres dans le droit chemin, les a remis d'équerre et bizarrement, les résultats reviennent. Alors, dans le jeu, je suis assez d'accord, c'est pas fou. On voit des séquences qui sont quand même super intéressantes, mais dans la longueur, on voit que ça ne clique pas encore à 100%. Et à Monaco, c'est quand même un bel end-up. Mais pour l'instant, Lyon, la priorité, c'est les points, quoi. C'est les points, comment ils gagnent, la manière, la façon, on s'en fiche un peu. Il faut absolument qu'ils remontent dans le classement. Et donc, moi, je trouve qu'en ce sens, bah, je trouve que le nouveau coach, il a fait beaucoup de bien sur ça, en remettant les têtes à l'endroit et que la casette soit performante. Bah, je trouve que c'est quand même un bon signe.
Ok. Et puis on a peut-être l'impression aussi qu'il a trouvé sa compo avec ce, on va dire, 3, 4, 2, 1, où on voit bah, déjà un Cherki, un Nuama qui sont plus proches de l'attaquant, qui sont plus proches de la casette. Donc, même si Cherki a tendance à dézoner, à venir chercher le ballon assez bas, comme il sait le faire, puisqu'il a quand même une belle conservation, moi, Nuama, c'est un joueur quand même qui me plaît assez. Alors, il n'est peut-être pas assez décisif, mais je trouve que dans son activité, il est plutôt pas mal. Et puis au milieu de terrain, on a ce duo Kakré-Tolisso qui est plutôt solide. Surtout sur ça, j'ai cette défense, O'Brien-Lovren-Caleta-Sarr, avec des. Enfin, O'Brien qui est un pur inconnu, Lovren et Caleta-Sarr, on les connaît, mais c'est pas les top défenseurs. Donc, ouais, une petite hype lyonnaise parce que vous pensez que face à Nantes, cette équipe, parce que clairement Monaco, voilà, c'est un hold-up. On le sait tous, on ne sait pas comment Lyon a réussi à gagner. C'est plus une défaite monégasque qu'une victoire lyonnaise, en tout cas pour moi. Mais en tout cas sur Toulouse et Lens, je les ai vus quand même bien jouer Lyon. Est-ce que du coup Nantes, c'est ce bon adversaire où bah, Lyon va pouvoir capitaliser sur ce qu'il a et c'est ce qu'il a fait pour aller chercher la victoire, pour aller ch chercher la victoire. C'est quelque chose de possible ou trop tôt? Cox?
Ouais, moi
De Corentin?
je pense que pour le coup, finir l'année avec un match contre Nantes, c'est une bonne chose pour Lyon. J'ai l'impression qu'ils ont un peu les mêmes mots, côté nantais et côté lyonnais. Je suis d'accord avec toi, Nouama, c'est un joueur qui monte bien en puissance. Moi, j'étais au stade, je te dis, à Lens-Lyon, je l'ai trouvé vraiment déstabilisant, un peu de manque. En termes de finition, mais je trouve que c'est un très bon joueur. Effectivement, en plus du système de jeu
Il lui
qu'il
manque un peu
a,
son match référence quand même.
ouais, il manque. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le but où les passes D qui lui feront passer ce petit gap, mais je l'ai trouvé extrêmement déstabilisant et je trouve qu'il est toujours hyper volontaire et je trouve que c'est un joueur de foot qui va être sympa à suivre du côté lyonnais. Un peu moins d'accord sur Cherki, que je trouve un petit toujours en deçà, malgré le fait que le coach lui laisse beaucoup de liberté. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que tu disais, c'est qu'en plus du système de jeu qui est un peu plus adapté, je pense aussi que les joueurs sont beaucoup plus libres. Lacazette de décrocher, Nouama de dézoner un peu, Cherki aussi beaucoup. Je pense que ça leur fait du bien, notamment devant Lacazette, pour ressortir les ballons avec les deux bons milieux de terrain qu'ils ont mis avec le ballon. Donc ouais, je pense que pour Nantes, moi je vois plutôt une victoire lyonnaise. Après voilà, mes doutes, c'est ce que je disais, c'était un petit peu ce qu'ils ont rencontré à Marseille ou à Lens, c'est que tu sens encore que des fois c'est un petit peu fébrile et que ça peut craquer sur une action et après lâcher un peu le truc. Mais bon, Nantes, pour moi, c'est un adversaire qui est largement prenable pour ce Lyon en regain de points.
Ok. Bah, du coup, justement, Baptiste, je vais te lancer sur Nantes. Nantes, c'est vraiment une équipe, bah, de milieu de tableau, hein, qui, voilà, depuis Rennes, allez, même Clermont, on peut dire, varie entre la 14e et la 16e place, hein, mais surtout autour de la 10e place. Nantes qui a changé d'entraîneur à la grande surprise. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'au final, mis à part cette victoire face à Nice, tu as une défaite face au PSG, tu as une défaite la semaine dernière face au Stade Brestois. Toi, qu'est-ce que tu attends de cette équipe nantaise qui a bien commencé, en tout cas avec un gros Mo Stéphan en début de saison qui a mis pas mal de buts, qui est un peu plus sur. Qui marque le 13 décembre, il me semble, mais qui a un peu plus marqué le pas. Toi, qu'est-ce que tu attends de cette équipe nantaise face à Lyon? Tu penses qu'ils vont pouvoir proposer quelque chose d'intéressant?
Juste avant de parler de Nantes, je suis assez d'accord sur vous, je suis assez d'accord avec vous, pardon, sur Nouama, que j'adore. Voilà, parce qu'il nous manque juste le petit déclic, le petit match ref et tout. Et sur Cherki, je pense qu'on est, je crois qu'avec Corentin, on est plutôt d'accord sur le fait qu'on aime beaucoup de joueurs, mais que chaque entraîneur qui passe, c'est souvent le même problème. C'est-à-dire, et ça va devenir un problème dans le temps, je pense, avec ce joueur, parce qu'on sent le potentiel et personne n'y arrive, et ça va bientôt faire un an et demi, donc c'est un peu dérangeant. Et concernant Nantes, bah, moi, c'est inexplicablement une équipe que j'aime bien, Alors, je ne sais pas trop pourquoi, je vais te l'expliquer. J'adore je trouve qu'ils ont un pouvoir offensif assez sous-estimé. Mollet, Simons, Mohamed, je trouve que ça se complète plutôt bien. C'est un créateur, un dynamiteur et un mec devant, un neuf qui est plutôt très bon dans la finition. Mais pour l'instant, au bout de 4 matchs, moi j'étais au parc pour PSG Nantes. Moi, ils ont fait un système un peu,
Ouais.
comme d'habitude, un peu spécial contre le PSG. Très, très, comment? Très bas sur le terrain, le moins d'espace possible pour les Parisiens. Donc c'était un match un peu spécifique. Mais globalement, tu l'as dit, le match contre Brest, ils font pas un mauvais match, ils sont moins solides. On sent bien que défensivement, bah, s'ils font pas ce score spécifique, bon, bah, ça peut partir dans tous les sens. Mais ils se créent pas mal d'occasions. Ils se créent pas mal d'occasions. Et le match, par exemple, contre Brest, il y a deux doigts à un moment de basculer. Ils peuvent mettre le troisième but et tu sens que le match, il peut un petit peu tourner. Donc voilà, il y a des manques dans cette équipe, surtout défensivement. Je trouve que l'équilibre, il n'a pas encore trouvé l'équilibre. Gourvennec, attaque, défense, il galère un petit peu pour l'instant. Mais je trouve qu'elle a des qualités, surtout offensives, cette équipe, et elle ne va pas négliger. Je trouve que quand même, avec Lyon et le peu de certitude qu'ils ont, ils devraient se méfier quand même de cette équipe nantaise, hein, sincèrement.
Ouais, je te suis sur Simon. Je trouve aussi que c'est un joueur qui est plutôt explosif. Il m'avait assez impressionné face à Nice, où clairement sur le côté gauche, Todibo, il lui avait fait, enfin, il en avait vu toutes les couleurs. Du coup, vos pronostics pour ce match, on va commencer par toi, Corentin. Tu t'attends à quoi? Quel type de score? Les buteurs, si tu as envie de te risquer à nommer des buteurs?
Ah, je vois un match assez fermé plutôt, avec des équipes qui vont pas vouloir perdre, mais je mettrai quand même une petite pièce sur Lyon 2-1, avec la Lacazette qui est de retour en forme.
Ok.
C'est pour moi le match un peu de plus globalement, plutôt dans un cadre extra sportif de l'ingérence Football Club, j'ai l'impression. Tu as les deux clubs ou tu as les deux présidents qui sont en perpétuelle réorganisation de leur club, quitte à où Aristouille, dès le début de saison, il était déjà tué dans l'œuf sans avoir commencé la saison. Textor Coppélion avec son quatrième entraîneur. Donc, c'est un peu le match de la peur, j'ai l'impression, pour cette fin de saison. De la peur, n'abusons pas, mais j'ai
Non, un peu.
l'impression que ce sera deux équipes qui préféreront ne pas perdre plutôt que d'essayer de gagner. Mais une petite pièce sur Lyon pour moi.
Ok. Baptiste, je te lance. Toi, tu penses quoi? T'as
Alors moi, je vois exactement le même score. je vois exactement le même score, 2-1 à Lyon, mais un match totalement différent. C'est-à-dire que je trouve que ça, je pense que ça va être plutôt ouvert parce que je vois deux équipes qui sont meilleures offensivement et qui sont incapables de ne pas concéder d'occasion. En fait. Donc je vois plutôt un match plutôt ouvert. Je dirais 2-1 pour Lyon, mais avec pas une énorme certitude. Ouais, j'aurais 2-1 aussi pour Lyon. Une petite victoire lyonnaise. Mais je vois plutôt un match plutôt ouvert. Et je trouve que Nantes, mis à part s'ils jouent Nice ou des très très gros, ils ne ferment jamais trop le jeu. Donc non, ça peut être un match plutôt plaisant à regarder.
Ok. Ok. Moi, je vais prendre le contre-courant. Je pense 2-1, mais 2-1 pour Nantes. En fait, comme je l'ai dit, moi, je pense que c'est un match qui peut vraiment pencher d'un côté comme de l'autre, puisque les deux équipes, c'est quand même mieux de partir avec une victoire avant la trêve. Et je pense que, ouais, on sous-estime un peu l'attaque nantaise. Et après avoir vu le match de Brest, s'ils sont décisifs, ils peuvent faire quelque chose. Donc moi, je dirais 2-1 pour Nantes, même si c'est à l'extérieur. Mais non, c'est à domicile.
Après, il a raison quand même sur l'instabilité des deux clubs qui se ressemblent vachement. En fait. C'est vrai que Nantes, on avait compris dès la première journée ou la deuxième journée que le coach il allait pas rester. Il attendait les mauvais résultats pour le virer. Et Lyon, c'est une blague qu'on passe depuis le début de saison. Quoi. Alors là, ça va un petit peu mieux. Depuis le calme est revenu depuis 2-3 bons résultats. Sincèrement, c'est vrai que c'est deux clubs qui se ressemblent dans l'instabilité générale du club. Quoi.
Ouais.
Et je n'ai même pas parlé des supporters, de l'environnement global, parce que les supporters, ça en découle parce que les mauvais résultats sont là. Mais c'est vrai que les supporters, ce qui se passe aussi en tribune, c'est compliqué. Quoi.
Ouais, surtout côté lyonnais. Hein. Surtout côté lyonnais, ouais. Pendant un moment, c'était très très chouette les supporters. Et après, ça a l'air de stabiliser un peu plus côté lyonnais, puisque même si au début, ça m'a surpris, puisqu'ils ont dit Pierre Sage, t'as jusqu'à la 17e journée, on voit ce que ça donne, et si ça marche pas, on trouve un nouveau coach. Je trouve assez bizarre de se mettre dans ce genre de conditions-là, mais j'ai l'impression qu'ils vont quand même le garder. Ils ont fait venir Prudhomme. En tout cas, Textor a l'air de créer une nouvelle équipe autour de lui. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. On a vu Colas était revenu en tribune pour le dernier match à domicile. On va voir combien de temps ça dure, parce que c'est vrai qu'avec eux, on ne sait jamais. Du coup, on va passer. Ouais, vas-y, finis, je te laisse conclure. Ouais, vas-y.
C'est aussi en ça que je disais que c'est un peu le match de la peur, parce que tu sens que dans les deux clubs, pas seulement sur le terrain, tu as. Dans un sens comme dans l'autre, ça peut partir très vite avec un enchaînement de mauvaises performances, etc. Donc voilà, c'est aussi en ce que je disais, un match à ne pas perdre pour tu vois, entamer le début d'année prochaine sur des bonnes bases. Quoi.
Ouais, complètement. Du coup, on va passer au second match, un match qui est déjà un peu plus décisif, un match du haut de tableau, donc Nice face à Lens. Alors, on a deux équipes qui sont dans deux situations différentes. Hein. Nice a enchaîné sa deuxième défaite sur les trois dernières journées, hein, donc elle a perdu son dernier match. Qui d'ailleurs a très mal fini. On a vu Todibo être exclu, mais clairement, ils se sont fait. Alors, j'ai pas envie de dire dominer, mais Le Havre a très bien joué son match et a réussi à concrétiser ses actions face à un Nice qui a été beaucoup plus dans la difficulté, mais qui a réussi à marquer en fin de match. Et de l'autre côté, on a Lens qui a gagné face au Stade Rémois. Alors, pareil, c'était un match assez compliqué où Reims s'est tiré une balle dans le pied, surtout sur le premier but. Mais voilà, Lens a réussi à faire le dos rond et à l'emporter 2-0. On va garder le suspense, on va commencer par Baptiste cette fois. Est-ce que cette deuxième défaite niçoise en trois matchs, elle est inquiétante? Sachant qu'il y a quand même pas mal d'absents côté, Côté niçois, pour ce match-là, juste pour rappeler, Todibo, Ndiaye Amine, Atal, Bouanani, Thuram, Diop, Beka Beka, Baldé, Mofi qui est incertain. Donc ouais, je te repose la question, est-ce que cette deuxième défaite en trois matchs, Baptiste, elle est inquiétante?
Non, ouais, tu viens de faire la liste des absents, elle est inquiétante. Ouais. Ça, c'est inquiétant. Après, le nombre de défaites inquiétant, je ne sais pas. Sincèrement, je trouve qu'ils ont vachement optimisé tous leurs matchs depuis le début de la saison. Que ça tourne un peu moins bien, ça me surprend pas des masses. Inquiétant, je sais pas. Je trouve que, bon, qu'ils prennent un peu plus de buts, ça peut peut-être les inquiéter parce que je trouve quand même que c'est leur force depuis le début de saison. Non, je n'irai pas jusqu'à inquiétant. Sincèrement, je connais pas le potentiel de cette équipe, ce que je veux dire dans la créativité. Autant quand ils sont pas très bons défensivement, c'est-à-dire que là j'ai remarqué quand même que dès qu'ils ont pris le premier but, ça arrivait que deux fois, les deux fois ils ont perdu, c'est-à-dire contre Le Havre et contre Nantes. Donc ça veut quand même dire quelque chose, c'est-à-dire que dès que le match se goupille mal, ils ont du mal à revenir, et je pense sincèrement que le coach a quand même mis l'accent depuis le début de saison dans la phase défensive, et qu'offensivement, bon, bah, c'est une équipe qui se cherche encore, quoi, et ça se voit au fil des matchs. En fait. Je sais pas trop ce que Corentin en pense, mais après, ouais, je trouve que c'est pas une équipe hyper agréable à suivre tout au long de ce début de saison. Elle fait ses résultats. Et quand même très très important de souligner qu'elle défend bien et que c'est quand même un bon travail. C'est une rigueur défensive quasi militaire, je trouve, moi, contrairement. Mais c'est plutôt assez intéressant à suivre. Mais globalement, on ne se régale pas devant leur match.
Ouais. Toi, Corentin, t'en penses quoi? T'es du même avis que Baptiste, hein, sur le fait que certes, c'est pas la plus belle équipe, mais c'est une équipe efficace. Et voilà, quand l'attaque se mettra en route, surtout qu'il manquait Mofi pour le dernier match, il va sans doute être absent contre Lens. Alors, il est incertain, c'est pas encore. Mais ouais, pas de quoi s'inquiéter pour l'instant côté niçois.
Non, je trouve pas assez inquiétant du tout pour ma part. Même, voire pas surprenant. Pour reprendre un peu ce que disait Baptiste, je trouve qu'effectivement, c'est une équipe. Bon, quand tu es deuxième du championnat, en prenant si peu de buts, excepté le match du Havre, je crois qu'ils avaient pris 6 buts depuis le début de saison, c'est que tu fais preuve d'une rigueur défensive et tu as une qualité défensive qui est énorme. Donc, ça, c'était leur gros point fort. C'est leur gros point fort de ce début de saison. Pas surprenant non plus, parce que si tu regardes aussi le fait qu'ils prennent pas beaucoup de buts, ils en mettent pas beaucoup non plus. Ils ont gagné pas mal de buts par un but d'écart, avec des petits 1-0 où ils gagnent pas toujours en dominant les matchs. Donc ouais, je suis pas forcément surpris. Je pense qu'ils font un excellent début de saison. Je pense que si tu demandais à Saint-Niçois s'ils étaient OK à la fin de saison d'avoir ce nombre de points et avec cette configuration-là, il n'y en a pas un qui serait inquiet ou qui serait déçu. Donc, ils font un super début de saison. Mais voilà, je pense qu'ils ont eu un énorme mojo pendant une grande partie de la première partie de saison. Et puis là, voilà, ça se perd un peu. Et puis, je pense aussi que autant ils ont une très bonne assise défensive avec Todibo qui est monstrueux cette année, Dante qui l'accompagne pour la défense centrale. Autant je trouve qu'offensivement, ils cherchent toujours un petit peu à trouver la bonne formule avec les trois devant. T'as Boga qui est bien installé sur son côté gauche, mais j'ai l'impression que Farioli trouve pas la bonne formule entre Mofi et Laborde, où Laborde se retrouve souvent excentré sur le côté droit. Et voilà, c'est un joueur mobile et moi j'adore ce joueur, donc je le trouve excellent. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je pense qu'il apporterait beaucoup plus dans l'axe. Mofi qui est dans l'axe, et pendant la première partie début de saison, l'entraîneur qui lui demandait de faire des choses qu'il ne savait pas forcément faire, comme décrocher, venir chercher le ballon bas, alors que c'est plutôt un joueur de transition et qui aime prendre la profondeur. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils peinent un peu à trouver leur animation offensive. Ils ont beaucoup d'absents. Voilà, ils ont fait jouer Guessant en pointe, Mofi sur le côté. Enfin, dans les derniers matchs, je ne suis pas surpris parce que je trouve que c'est une équipe qui collectivement est très performante, mais qui manque un petit peu offensivement de ce petit plus pour gagner les matchs de manière plus facile et voilà quoi, scorer davantage.
Ouais, parce que
et globalement, et je complète, globalement, dès qu'on leur laisse un petit peu la balle, et c'est arrivé contre Nantes, c'est arrivé contre à la fin contre Le Havre, globalement, dès qu'on leur laisse un petit peu le ballon et leur dit allez-y, créer en attaque placée et tout, ça a vraiment beaucoup de mal même à se créer des occasions, même des situations. Donc c'est quand même un vrai axe de progression qu'ils ont et ils n'arrivent pas dès que le match voilà il n'est pas dans la physionomie qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mener où il y a 0-0 et il va y avoir de l'espace pour avoir des contres et ils ont énormément de mal à tout ça se travaille hein, bien évidemment ça se travaille et quand même il y a des choses très positives parce que ils sont deuxième au classement juste à 5 points du PSG, hein, on parle d'une équipe. Mais c'est quand même des axes de progression qu'il faudra travailler parce que je ne pense pas que tu vas prendre 6 buts en 17 matchs lors de la phase retour. Quoi.
Ah, mais complètement, c'est ce que je voyais, puisqu'on ne parle pas aussi du match face au Stade Rémois, mais le match face au Stade Rémois aussi, ils subissent un pressing monstre tout le match où ils ont du mal à ressortir les ballons, à créer. Eux, ils essayent de faire un contre-pressing, mais on voit que Reims s'en sort beaucoup mieux. Donc finalement, Reims perd ce match-là, puisqu'en ce moment, ils ont des difficultés à marquer. Mais je trouve que sur les 3 derniers matchs, bah, Nice. Voilà, les gens ont commencé à comprendre comment Nice jouait, comment Nice marchait. Contre Le Havre, ils ont quand même 62% de possession de ballon, ce qui est quand même assez, ce qui est assez énorme. Et au final, pour rebondir sur ce que tu dis, Baptiste, Nice, bah, ils ont un peu plus de mal à créer. Et aujourd'hui, les points forts qu'ils avaient, qui étaient leur défense, bah, ils ont quand même pris 4 buts, enfin 3 buts face à Le Havre, 1 but à Nantes. Bon, ils ne prennent pas de but face au Stade Rémois, miraculeusement, mais ça ne se joue à rien. Je trouve que aussi, leur point fort qui est la défense, bah, elle, c'est pas qu'elle peine, mais voilà, les gens ont commencé à comprendre comment Nice jouait. Et contre Lens, ça peut être. Ça peut être aussi un petit match piège, on va dire. Du coup, on va enchaîner sur Lens. Lens, elle, qui est dans une dynamique un peu différente, dans le sens où, à grande surprise, Lens est quand même une équipe qui est sur 11 matchs sans défaite depuis l'IMS, avec 7 victoires et 4 matchs nuls, ce qui est plutôt pas mal. Mais Lens, qui a quand même beaucoup d'absents, donc on a Cabo, Machado, Mendy, Farinez, enfin moi qui est absent, Gradit, Danso, Wai qui est incertain, on a le retour de Sotoka et Medina, mais tu as quand même 2 joueurs sur 3 de ta défense habituelle qui sont absents. Est-ce que Lens, au vu de leur dynamique actuelle où ils ont un peu plus de mal dans les matchs, un peu plus de mal à mettre leur pressing, un peu plus de mal aussi à marquer, et en prenant en compte les absents, est-ce que Lens, va pouvoir rivaliser avec cette équipe niçoise à domicile, Corentin?
Je pense que ça va être un match assez difficile pour Lens. On est un peu dans la même dynamique que Nice, mais en inversé, c'est-à-dire qu'on a fait les premiers matchs de la saison où on a pour le coup proposer du bon football, mais on a perdu nos matchs. Et ça fait un petit moment qu'on gagne nos matchs, ou en tout cas qu'on ne perd pas, malgré le fait que ce qu'on propose en termes de jeu est très pauvre. Donc on gagne, mais sans la manière. Donc je pense que ça va être un match compliqué pour Lens. Tu as dit voyez un certain. Je lisais ce matin, Francaise disait que normalement c'était bon, il allait être présent. Okay. Néanmoins, ouais, on a un gros problème en termes d'animation offensive et en termes de production de jeu par rapport notamment à ce qu'on pouvait voir l'an passé. L'absence de Machado qui cause pas mal de problèmes en termes pour cette animation où on a des gros problèmes au milieu de terrain pour amener le surnombre et voilà, proposer plus de solutions comme on le faisait l'année dernière avec le duo Samet Fofana. Donc à mon avis, ça va être un match compliqué. Après, je pense aussi que nous, on a aussi cette même qualité que les Niçois, c'est d'avoir une bonne assise défensive. Tu disais, on va avoir pas mal, on va avoir des absents avec Gradit et Danso. Ça va être Aïdara et Kouzanov qui vont les remplacer. Kouzanov que j'aime beaucoup, mais qui est encore jeune et parfois un peu tendre. Aïdara, c'est parfois compliqué quand il joue dans l'axe. Donc notre force, qui est plutôt notre assise défensive, elle va être mise à mal par ses absences. Donc à mon avis, ça va être un match assez compliqué pour nous. Et surtout, voilà, face à cette bonne défense niçoise, bien que Todibo ne sera pas là, ça va être compliqué de se créer des occasions avec notre animation de ces derniers matchs.
Ok. Et toi, t'en penses quoi, Baptiste, du coup, en prenant voilà en considération les absents, le contexte, qu'est-ce que vient de dire Corentin? Est-ce que tu penses que Lens va pouvoir rivaliser avec cet OGC Nice à domicile, hein, parce que à domicile, quand même, Nice est très solide.
Rivaliser, ouais, il n'y a aucun problème sur ça, parce que là, Lens a quand même joué tout type d'adversaire à chaque fois, là, tu l'as dit, de toute façon, c'est 11, tu m'as dit 11 matchs, hein, 11 matchs.
11 matchs sans défaite, ouais.
Voilà, donc, sincèrement, ils ont eu tout type d'adversaire, ils ont réussi à ne pas perdre, ou au moins, au moins à rivaliser, quoi. Et voilà, après, je trouve sincèrement, moi j'ai vu les deux derniers matchs de Lens, je trouve sincèrement les deux résultats assez heureux. Voire, bon, pour celui de Séville, je trouve même un peu miraculeux, encore plus que celui de Reims d'ailleurs, sincèrement. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de mal à faire le jeu, c'était leur force, même, je parle même pas de l'année dernière, qui est une saison exceptionnelle de Lens, où c'était clairement la meilleure équipe dans le jeu en Ligue 1. Mais même il y a 2 ans, il y a 2, 3 ans, on voyait beaucoup plus d'enchaînement. Je trouve sincèrement que peut-être depuis leur remontée dans le jeu, c'est le Lens le plus pauvre au niveau du jeu que je vois depuis. Mais ils sont quand même 3e, 5e ou 6e, donc ils maximisent vachement leurs points. Et à ça, on parle souvent de solidarité dans le foot en disant ouais, on a bien tenu tout ça. Pour Lens, je trouve pas que ça soit une solidarité de façade, quoi, de dire, je trouve quand même que c'est un groupe qui se connaît, ils savent qu'ils sont un peu dans le dur, ils savent qu'ils sont un petit peu dans le dur dans le jeu, mais c'est pas grave. Tu l'as dit, les cadres sont tout le temps présents, les danseurs, Dradit, Medina, Sotoka, c'est toujours dans l'esprit. Alors là, c'est vrai que demain, il va en manquer deux, ce qui va être un peu compliqué la tâche. Mais notre groupe, il est quand même assez solide, assez solidaire. Donc je vois un match, en tout cas, je vois un match. Je vois deux équipes assez solides. Donc voilà, je ne sais pas si le spectacle, ça va être fantastique, mais au moins, il va y avoir un match. Ça, c'est sûr.
Ouais, est-ce que c'est pas le risque justement de voir deux équipes bah, qui se regardent, deux équipes qui n'ont pas envie de perdre avant la trêve, Nice bah, qui pourrait revoir ses concurrents, l'ensemble de ses concurrents revenir sur lui, puisque Nice a que 2 points d'avance sur Monaco, donc ils sont à 32 points, Monaco à 30 points, Lille à 28 points, Lens qui sont remontés à la 7e place avec 26 points, donc autant de points que Marseille qui est 6e. Devant Reims à 3 points, donc Reims aussi qui a décroché. Est-ce que justement c'est pas le risque de voir deux équipes bah, qui se regardent et accoucher d'un peut-être pas d'un 0-0 quoi, mais d'un triste match quoi. Moi c'est ce qui, enfin avec tous les absents, j'ai peur que ça finisse comme ça. Vous en pensez quoi?
J'ai pas l'impression que ce soit le projet de l'entraîneur, en tout cas côté Lensois, de viser un match nul ou d'espérer ne pas perdre contre Nice. Je pense vraiment que c'est un problème de qualité. Et, voilà, on a les absents, on a un effectif qui est de moins bonne qualité, on a une animation qui peine à se trouver, on est beaucoup moins bon dans les jeux de transition où c'était l'une de nos principales forces les années précédentes. Et ouais, je pense que c'est vraiment. Enfin, En tout cas, si c'est un match déplaisant, ou en tout cas un match peu spectaculaire, et je suis d'accord, ce sera un match peu spectaculaire, je ne pense pas que ce sera la volonté des Lensois d'avoir ce jeu-là. Ce sera plus par la contrainte. Côté niçois, je pense plus ou moins la même chose. Je pense qu'ils ils vont essayer de finir la saison en plus à domicile avec une victoire. Mais pareil, il faudra voir en termes d'animation offensive. Encore une fois, avec les problèmes défensifs et les absents des deux côtés, on va voir quel effectif gérera le mieux ces absences et ce que ça va donner.
Ouais, non, mais complètement. Enfin, juste pour préciser, moi, je pense pas du coup que Franquès soit dans cette mentalité-là. Il l'a prouvé à plusieurs reprises, mais c'est plus au vu des circonstances. Des absents, voilà, dernier match de la saison, t'as la fatigue, il y a eu quand même beaucoup de matchs pour le RC en cette année. J'ai peur que voilà, ça soit un match assez pauvre techniquement, quoi. Baptiste, toi, t'en penses quoi?
Non, mais globalement, en plus, je suis d'accord. Encore en français, toi, tu sais que je suis très fan de Franquès, mais qui ne l'est pas. Mais globalement, après, il a quand même fait 2-3 modifs depuis... alors moi, je note ça, Corentin va peut-être mieux savoir que moi, mais moi, je note ça de Monaco-Lens du début de saison, où je trouve quand même que le bloc en soi est beaucoup plus bas que ces dernières années, quoi. Alors, c'est peut-être dû au fait de Wai qui presse beaucoup moins que pouvait le faire Openda, que pouvait le faire Kelly Mwendo, ou des choses comme ça. Mais il a quand même beaucoup plus accepté le fait, Franquès, il a quand même beaucoup plus accepté le fait de, pas subir est un grand mot, mais voilà, redescendre un petit peu le bloc, le laissant en médian, et aller beaucoup moins presser l'adversaire pour pas prendre des grandes transitions, ce qui s'est passé au Parc et à Monaco. Et donc redescendre le bloc et laisser un peu d'espace à Hawaii, et lui, eux-mêmes profiter de cette transition, que ce soit avec Sotoka, avec Wai. Donc voilà. Et donc Wai, il faudrait peut-être en parler. Je trouve que pour l'instant, il a quand même beaucoup de mal à s'insérer dans le projet de jeu lensois. Il ne trouve pas énormément sa place. Et je pense que quand même, ça peut être la bascule sur le jeu lensois, ça. Au-delà même du fait que le milieu soit un peu moins dominant, d'avoir un très bon joueur devant, qui trouve lui aussi son match référent, que ça clique. Surtout avec ses deux compères, que ce soit Thomas ou Sotoka, le match référence, et je trouve qu'on verra vraiment un autre lance.
Ok. Vas-y, Cox, je te...
Ouais, pour répondre à Baptiste, je suis d'accord avec toi sur le côté plus pragmatique défensivement, où on joue plus bas que les années précédentes, parce qu'on s'est rendu compte qu'en ayant ce jeu un peu parfois tout feu tout flamme, on se prenait beaucoup de buts, bah notamment au début de saison. On a fait un début de saison assez cata. Ça a été un des ajustements de ce début de saison. Et il y a aussi le fait, je pense, que les autres équipes se rendent compte que notre force, qui était le jeu de transition, pour le contrer, aussi de leur côté, avoir des défenses plus basse, ça nous embête pas mal dans notre animation offensive. Donc je pense que c'est un ajustement du coach lensois et aussi des adversaires qui se rendent compte que défendre plus bas contre Lens, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et sur Wai, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je suis assez critique sur le joueur, malgré le fait qu'il soit jeune, qu'il vienne d'arriver. Je pense qu'il est loin d'être le seul fautif de nos problèmes offensifs, mais c'est vrai que bon, en tout cas, sur cette première partie de saison, j'ai un goût de trop peu sur Wai. Je pense quand même qu'il a fait beaucoup de différence et il a marqué des buts importants, notamment en Ligue des Champions, en tout cas des buts ou des passes décisives. Sur les actions clés, il a été fortement présent. Par contre, je trouve qu'il manque beaucoup de consistance dans les matchs, et à part ses petits éclairs éparses pendant les matchs, on le voit très peu, quoi. Donc, souvent, tu es là à espérer que le joueur ait ce petit éclair ou cette action pendant le match, mais s'il ne l'a pas, tu as l'impression de jouer à 10, quoi. Donc, c'est un joueur qui fait beaucoup moins d'efforts qu'Openda, que ce soit avec le ballon, avec les appels incessants que pouvait faire Openda, et aussi à la perte du ballon, il fait très peu d'efforts et il ne fait même pas semblant d'aider, quoi. Donc, Ouais, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Techniquement, je pense qu'il est au-dessus d'Openda. Physiquement, il est encore léger selon moi. Et effectivement, il faudra trouver la bonne formule en deuxième partie de saison. Je pense qu'il y a des projets d'acheter une gâchette supplémentaire devant et voir comment elle pourrait être complémentaire de Wai pour potentiellement le libérer un petit peu et lui permettre d'avoir le déclic dont Baptiste parlait.
Après, globalement, sincèrement, enfin, d'une équipe là qui a perdu Fofana, qui était le deuxième meilleur joueur de Ligue 1 l'année dernière derrière Mbappé, et Openda qui maintenant, on le voit, il flambe énormément à Leipzig. Bon, qu'une équipe soit un peu moins forte quand elle perd ces deux joueurs-là qui, pour moi, étaient clés l'année dernière, c'est pas non plus.
C'est
C'est
pas
pas non
choquant,
plus
quoi.
surprenant, quoi. Voilà, c'est pas non plus surprenant. Et c'est dur. Et je trouve quand même qu'ils maximisent vachement leurs points. C'est une petite déception, Lens, mais une petite déception qui est sixième et qui a, je sais pas, 26, je sais plus, j'ai pas le
7
classement.
points à 26 points.
26
Septième
points,
à 26 points, pardon.
septième à 26 points. Ils sont à 4 points du, 4 points de, 4 points du troisième, quoi, 4 points du podium. Donc, bon, faut relativiser.
C'est ça.
Pour rediffuser ma déception, quoi.
Ah, ils font un gros retour quand même, ils font un très gros
Ouais.
retour. C'est vrai qu'ils sont. Certes, c'est pas très beau dans le jeu, mais quand même enchaîner 11 matchs sans perdre avec 7 victoires et 4 nuls. Voilà, faut,
Non, et puis
surtout au
au-delà de
niveau
ça
type,
même,
ils font.
enfin, au repoint Lens, parce que bon, enfin, on a 40 ans, mais au-delà de ça même, c'est quand même l'antithèse des deux équipes qu'on a parlé un petit peu avant. Lyon et Nantes, parce que moi je me souviens quand même de Monaco-Lens, où franchement Lens a été peut-être là pour la première fois un peu pathétique sur ce match-là. On pensait que ça allait
Catastrophique.
partir un peu dans tous les sens après la Ligue des Champions, tout ça. Tout le monde s'est calmé. Franthèse, il a été très clair en disant bon, on était nuls, sincèrement on a été nuls et tout ça. Et tout s'est calmé. Dans le club, il y a quand même une sérénité, même si les résultats étaient pas là, je sens quand même une sérénité que par exemple Lyon et Nantes, pour parler des deux équipes qu'on a fait avant, il n'y a pas du tout quoi. Dès qu'il y a un mauvais résultat, c'est panique à bâbord et tout ça. Et quand même, pas souvent de ce qui se passe en haut, et je trouve quand même que c'est trois équipes, et ben avec un. Voilà, j'ai terminé. Hein. Pas de souci, j'ai terminé mon intervention.
Ok. Bah, prono, enfin, ouais, pronostic sur ce match-là. Bah, vas-y, Baptiste, je te laisse conclure. Toi, tu penses quoi? Quel score pour ce match?
Bon, pour pas dire 0-0, je vais dire un partout, quoi. Parce que je vais voir des buts. Mais pour pas dire un 0-0, je vais dire un partout. Si tu veux des buteurs, Mofi, parce que ça m'arrange pour MPG. Je vois bien un petit but pour le retour de ce total.
Ok, et toi, Cax?
Je vois un petit 1-0 pour Lens quand même.
En
Un 0 pour Lens à Nice pour bien finir l'année avec un petit
toute
but
objectivité.
d'Aniaoui pour lui en toute objectivité. L'objectivité à l'Aniaoui qui va valider son bon début de saison avec un but à Nice. Voilà.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de lui, mais je ne connaissais pas du tout. Il m'a bien surpris. Je trouve que pour son jeune âge, il est très bon. Enfin, et surtout pour ses débuts, il est assez bon. Et j'espère qu'il aura un bel avenir à Lens et en Ligue 1. Moi, je vais partir sur un. Ah, et puisque Lens, ils sont quand même bordés de nouilles en ce moment. Hein. Ils ont le cul qui déborde, pour rester poli. Je vais partir sur, ouais, je vais tuer sur le 1-0 Lens. Ouais, je sais pas comment ils vont faire, mais je pense que ouais, 1-0 Lens aussi. Je sais pas, ils sont sur une bonne vibe et tout leur réussit. Nice, c'est la vibe contraire. Donc ouais, 1-0 Lens.
Non, et puis il manque le meilleur joueur de Nice, hein, quand même. Hein. Ça, c'est vraiment parce que Todibo, nous, on parle beaucoup de. on parle beaucoup de voilà, ce qu'on aimerait voir, qu'ils jouent un peu au ballon. Après, Farioli, qui est un très bon coach, il est très bien coaché, Nice. Enfin, il n'est pas fou, il voit que les qualités de Nice elles sont plus défensives qu'offensives. Il met son projet de jeu par rapport à ça. Nous, on veut voir du jeu, on veut voir du spectacle parce qu'on est, voilà, on adore ça, on adore le foot. Après, les coachs restent assez pragmatiques. Et regarde leur qualité, la qualité de leur effectif. Et quand la qualité de ton effectif elle est plus derrière que devant, tu fais un point de jeu en fonction. Quoi.
Ouais, complètement.
Voilà.
Et puis il y a toujours ce petit truc en plus là, depuis quelques temps entre Nice et Lens du départ un petit peu surprise de Gisolfi et du directeur de la performance Bessières.
C'est vrai.
Il y aura aussi ce petit truc en plus entre. Entre Hayes, qui est le nouveau manager, Grégory Thiel et
sur une petite animosité
avec Bessières, il y aura cette petite envie, je pense, supplémentaire, en tout cas au moins du côté de Frank Hayes et de notre direction, de montrer que Lens c'était finalement pas si mal, quoi.
Ok.
Mais ça le dérange sincèrement, est-ce que j'arrive pas à dire son nom, donc pardonne.
Giselfi.
Ouais. Ça me dérange vraiment qu'il soit parti, parce que lui, à la rigueur, ça a étendu ses pouvoirs. Quoi.
Ouais, je pense que ça lui a étendu ses pouvoirs, mais ça s'est fait un petit peu en. Après, voilà, je pense que ça arrive régulièrement dans le football, hein, faut pas en faire trop non plus, mais ça s'est fait un petit peu sous le manteau. Et ils avaient une très bonne relation de ce que j'ai pu entendre ou lire. Notamment sur le recrutement. Et tu vois, là, le recrutement de cet été, enfin, vous voyez le recrutement de cet été, on voit qu'il est. C'est pas mal ce qu'on a fait, mais.
C'est pas la même.
On a eu moins de réussite que ce qu'on a pu avoir lorsque Gisolfi était là. Et voilà, il y a pas mal de cibles, notamment, alors, je ne sais pas dire son nom, au milieu, là, le petit milieu.
Qui a cheminé.
Ouais, de Nice, qui était sur les tablettes de Lens, qui finalement est parti à Nice. Donc voilà, je pense qu'il est en bonne relation avec Gisolfi, mais le directeur général Pouille et Ogourléan, le président, je pense qu'ils l'ont toujours un petit peu en travers la gorge.
Il leur a fait un petit bébé dans le dos, quoi.
Ouais, un petit, ouais.
Ok. Donc, on va revenir sur l'actu de la semaine. Donc, il y a eu le tirage des compétitions européennes. Vous voulez me donner un peu votre avis rapidement, comme ça on va pouvoir aller faire le tour des stades. Donc le PSG qui rencontre la Real Sociedad, content, pas content. Moi personnellement, je suis encore en train de me balader en slip autour des Champs-Élysées. Mais on va commencer par toi, Baptiste. Content, pas content?
Oui, sincèrement content. Je pense que c'est le meilleur tirage au vu des six autres équipes qu'on pouvait tirer. Je pense que c'est le meilleur tirage. C'est une belle équipe, hein. Attention, c'est une belle équipe. Si elle a fini première, c'est pas non plus par chance ou quoi que ce soit. Parce qu'ils ont fait de vrais bons matchs contre l'Inter. Mais sincèrement, au vu de l'expérience, au vu la qualité du joueur, enfin, j'aime pas dire ça parce que c'est les ennemis, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur hyper phare dans cette équipe-là. C'est une super équipe collectivement qui joue bien au ballon, mais je pense sincèrement que quand tu peux tomber sur des équipes comme City, comme le Bayern, même Arsenal, qui m'impressionne énormément, tomber contre la Real Sociedad, on va pas se mentir, c'était le meilleur tirage. Même une équipe comme le Barça avec leurs joueurs qui sont un peu en difficulté ces derniers temps, je préfère jouer la Real Sociedad que des joueurs comme De Jong, comme Lewandowski qui peuvent se réveiller sur une phase aller-retour. Lewandowski, Rafinha, Félix, ces joueurs-là qui sur un match ou deux, ils peuvent le décider. Donc je pense que sincèrement, PSG a eu beaucoup de chance au tirage cette fois-ci. Après, place au terrain, et c'est le 14 février et le 1er mars.
Ok. Toi, Corentin, sur ce tirage en Ligue des Champions?
Ouais, je trouve que c'est un très bon tirage pour Paris. Alors, C'est un peu une phrase bateau, mais je pense qu'elle est vraie. Il faut toujours se méfier en Ligue des Champions des équipes que tu affrontes. Hein. Tu regardes rien qu'en phase de poule des équipes comme Copenhague, etc., qui ont posé pas mal de problèmes à Copenhague, au Bayern ou à Manchester. Donc voilà, ça restera un match européen. Néanmoins, en finissant deuxième de poule, je pense que c'est un excellent tirage, comme a pu le dire Baptiste. Tu as une équipe qui est collectivement très bonne. Ils ont des bons joueurs, mais t'as pas non plus une individualité qui peut voilà qui peut te comment dire te tordre un match comme peut le faire Mbappé côté parisien. Et puis il y a aussi une donnée qui est importante, je pense, à partir des phases finales, c'est que c'est une équipe qui n'a pas forcément l'habitude de ces matchs européens. Donc c'est aussi quelque chose qu'ils vont découvrir et qui est loin d'être anodin selon moi. Donc ouais, je pense que c'est un très bon tirage pour Paris en ayant fini deuxième de poule. Voilà, comme l'a dit Baptiste, tu pouvais tomber sur le Bayern, City, il y avait du Arsenal, du Real. Bon, tu tombes sur la Real Sociedad. Ouais,
Ça
je pense
va
que
quoi.
côté basque, ils sont pas ravis. Et je pense que dans le vestiaire parisien, ils doivent se dire que c'est un moindre mal en ayant fini deuxième.
Ok. On va
J'ai quand
passer
même
au.
oublié, j'ai quand même oublié le Real dans les pires tirages, alors qu'ils nous ont quand même traumatisés il y a 2 ans. J'ai quand même
Oui, non,
oublié
mais.
le Real.
Je savais pas si j'avais le droit d'en parler.
Non, mais en soi.
Je la mettais dans l'équipe, mais
À
quand
éviter.
tu pas jouer avec
C'est
City, ouais. C'était mes deux équipes qui étaient le pire. Même le Bayern, je les mettais un petit peu, pas non plus beaucoup plus bas, mais un petit peu plus bas.
ouais, non, et puis n'en déplaise à tous les aficionados du foot espagnol et qui considèrent maintenant et qui ont confondu la Real et le Real, j'ai l'impression, depuis le tirage. Ça reste quand même un bon tirage pour le PSG. Après, bien sûr, rien n'est fait. Sur le terrain, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, tout est possible. Mais en finissant deuxième, comme tu le dis, Corentin, c'est un bon tirage. On va pas se mentir. Europa League, là aussi, on a eu des beaux tirages. Bon, on va commencer par Lens. Lens qui va rencontrer Fribourg. Donc Fribourg, qui est actuellement sixième du championnat allemand. Ça reste aussi un tirage quand même qui est abordable entre deux équipes qui ne sont pas forcément des habitués des compétitions européennes. Ça reste voilà, un match qui est équilibré où Lens peut faire peut, voilà, peut se démarquer. Toi, t'en penses quoi, Corentin?
Ouais, moi je suis assez content du tirage. Je pense que ça va être une belle double confrontation. Voilà, je trouve qu'il y avait des équipes meilleures qui auraient été plus difficiles à battre sur la double confrontation, comme l'AS Roma ou le Sporting Portugal, qui sont des clubs qui sont beaucoup plus habitués à ces joutes européennes. Il y avait des clubs un peu plus simples, selon moi, comme Karabag, qui aurait été un tirage plus simple. Mais voilà, je pense que aussi bien en termes de footballistique, on va avoir deux beaux matchs. Et puis voilà, c'est aussi deux clubs avec une grosse fanbase où il y aura, je pense, deux stades bien, bien chauds sur les deux confrontations. Donc un beau déplacement éventuellement pour moi à faire à Fribourg. Et voilà, je pense que c'est jouable. Je trouve qu'on a fait, on n'a pas mis tous les ingrédients qu'il fallait pour passer la phase de poule de Ligue des Champions, mais pour une première participation en 20 ans, je pense qu'on a montré un beau visage. Et je pense que c'est de bon augure pour essayer d'aller faire quelque chose en Europa League, au moins passer ce tour de barrage contre Fribourg.
Ok, et toi, Baptiste?
Ouais, pareil, Fribourg. À peu près pareil que Corentin. Ouais. C'est bon, une équipe qui se stabilise en Bundesliga, souvent 5, 6e, tout ça. Et l'année dernière, je crois qu'ils avaient joué contre Nice, hein, si je me souviens bien. Ils étaient en groupe de Nice en conférence League.
Conférence League.
Et Nice avait un peu galéré, mais bon, Nice, l'année dernière, c'était pas fou. Mais non, non, bah, pareil, c'est un match européen, donc il faudra faire attention. Les équipes allemandes en Europe, elles sont souvent sérieuses. Oui, et il pouvait tomber sur pire Lens. Voilà, c'est un tirage plutôt sympa entre le fait que voilà, c'est une équipe avec un, voilà, avec un un gros public, donc ça va être un des personnages plutôt cool, et entre le niveau de l'équipe qui est bonne, mais très jouable pour une équipe comme Lens. J'aime bien le tirage.
Ok. Et on a eu donc trois autres tirages après qui sont pour moi quand même un peu plus compliqués. On a l'AC Milan qui va rencontrer le stade rennais, Benfica versus Toulouse et Shakhtar Donetsk versus Marseille. Vous en pensez quoi de ces trois autres matchs? Pour vous, qui est en ballotage favorable, plutôt en ballotage défavorable? Corentin?
Clairement, Rennes et Milan, ça va être très compliqué. Rennes qui vit une saison à demi-teinte, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il y a une équipe qui déçoit pas mal cette année. Milan qui est beaucoup moins fort aussi, je pense, que l'année dernière avec leur beau parcours en Ligue des Champions. Mais j'ai trouvé de manière assez... épisodique, en tout cas pas constante, en Ligue des Champions, intéressante. Donc je pense que ça va être compliqué pour Rennes. Après, voilà, Marseille, Shakhtar, c'est ce qu'on veut, mais pareil, c'est une équipe qui est habituée à jouer la Coupe d'Europe. Pour moi, c'est pas fait, le Shakhtar. C'est Monaco l'an passé qui avait galéré contre le Shakhtar, il me semble, il y a 2 ans. Voilà, Marseille aussi. Ouais,
Même ils ont sorti Rennes l'année dernière. Ils sortent Rennes.
Ouais, c'est Rennes aussi, ouais, bien joué. Donc, voilà, Shakhtar a toujours une équipe compliquée en Europe et puis un Marseille qui n'est pas fou. Donc, je pense que sur le papier, ça peut paraître un tirage assez OK, mais ça peut être aussi un beau piège pour Marseille, ce tirage.
Ok. Et toi, Baptiste, t'en penses quoi de ces trois tirages qui...
Ouais, globalement, je suis d'accord. Shakhtar compliqué. Après, ils jouent pas chez eux aussi, Shakhtar. Il y a peut-être un point en compte. Je crois qu'ils jouent en Pologne. Parce que Pologne, ouais. Allemagne, je m'en rappelle plus. L'avantage qu'ils ont aussi, c'est tous ces clubs-là. Rennes, franchement, je leur vois très peu de chance parce que malgré le fait que je pense aussi que le Milan est un petit peu en force l'année dernière, je dirais sincèrement que c'est quand même beaucoup plus fort que ce qu'on voit du Stade Rennais, après à eux de nous faire mentir. Et l'avantage de tous ces clubs-là, Benfica Toulouse aussi, je suis un peu inquiet pour nos amis toulousains. Mais après, il y a quand même un facteur, c'est que tous ces clubs-là, à l'exception bien sûr de Lens, ils reçoivent le retour. Donc, à quel point ça peut pas être une chance pour eux. Après, Toulouse et Rennes ont quand même une saison compliquée en Ligue 1, donc peut-être que ça risque d'être compliqué. Mais à voir. C'est des matchs assez ouverts. Hein, donc, pour ce qui est de Lens même Benfica, je ne trouve pas exceptionnel. Non, mais à voir, Toulouse nous a fait un très bon coup à Liverpool, pourquoi pas pourquoi pas le rééditer. Ça risque d'être compliqué pour Toulouse et Rennes, et les deux autres, je les vois bien passer quand même, sincèrement.
Ok. Ouais, d'accord. Ok, nickel. Bon, après ce tour d'Europe, on va se faire un petit tour des stades de cette 17e journée, hein. Donc, voir à peu près, parler rapidement des matchs qui nous attendent pour ce premier multiplex de la saison. Donc, forcément, l'un des premiers matchs, PSG face au FC Metz, hein. Donc, on a le premier face au 14e. Le PSG qui a fait match nul contre Dortmund en Europe et qui a fait match nul aussi contre Lille le week-end dernier, hein, en toute fin de match, alors qu'il contrôlait le match. Vous attendez quoi de ce match? Vous voyez qui gagne?
Paris. Je vois bien Paris gagner. Je pense qu'ils vont être libérés de leur bon tirage en Ligue des Champions. Et puis Metz, je trouve que c'est compliqué cette année, donc je vois bien Paris bien finir son année avec aussi la possibilité d'une contre-performance de Nice pour accroître leur avance en tête. Donc je vois Paris avec assez largement, quoi. De but d'écart, je pense.
Paris qui est, d'ailleurs, on a oublié de le mentionner, champion d'hiver. Félicitations à eux. Baptiste, toi, PSG Metz.
Ouais, pareil, je vois globalement une attaque. La meilleure, l'équipe qui a le plus de possession contre l'équipe qui en a le moins, d'après, ce que, d'après les statistiques, je crois. Et donc, ouais, je vois une belle attaque défense dans ce match. Metz qui est plutôt une équipe intéressante à domicile, mais à l'extérieur, c'est vraiment pas terrible, sincèrement. Donc, ouais. Et puis plus globalement, plus spécifiquement, pardon. Je vois bien, bon, là on vient d'apprendre que Dembélé jouera pas, donc je voyais bien Mbappé, c'est le débat en ce moment, repasser un petit peu à gauche, étant donné que bon, sur ce match-là, je pense pas qu'il y ait besoin de défendre intensément, donc sincèrement, je vois bien Mbappé repasser à gauche, mais si Dembélé joue pas, peut-être que. Qui restera dans l'axe, je ne sais pas trop, mais non, je vois bien repasser à gauche et soit un Gonzalo Ramos ou un Asensio
dans le. En pointe.
En pointe, quoi.
Donc, voilà. Ok. Donc, ok. Strasbourg contre Lille. Corentin.
Strasbourg-Lille. J'ai pas trouvé. Bah, Lille, j'ai l'impression qu'ils sont aussi plutôt sur une bonne phase. Je les ai pas trouvés très bons contre Paris. Ils ont montré vraiment très peu, si ce n'est par l'intermédiaire de Zegrova contre Paris. Et peut-être dans les 10 dernières minutes, quand Paris a un peu relâché le frein. Cependant, je les vois quand même gagner à Strasbourg, que je trouve aussi assez faibles cette année et qui sont pas très efficaces offensivement. Ils sont pas très efficaces offensivement, Strasbourg, et face à une défense lilloise qui est aussi pas mauvaise, je mettrais plutôt une pièce sur lui.
Ok. Baptiste.
Moi, je suis plus sur un nul. Strasbourg, je crois qu'il reste sur 2 victoires. Et,
yes.
Des fois, on sent un peu incompréhensible les victoires, mais ça va un petit peu mieux, le moral et tout. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que fait Gamero dans cette équipe-là. Sincèrement, je trouve qu'il dépouille bien, même des fois, il joue à droite. Enfin, c'est un peu incompréhensible comment attaque Strasbourg, mais il y a 2-3 bons joueurs. Et même si le coach ne les aide pas beaucoup, je trouve sincèrement. Offensivement, mais ils arrivent à trouver des solutions pour marquer. Donc maintenant, je vois un match un peu plus compliqué que ça pour Lille. Lille, c'est une équipe que j'aime bien, même si elle m'a pas déçu, mais bon, plan spécifique contre le PSG, donc maintenant on a un peu l'habitude. Non, je vois un match un peu compliqué pour les Lillois qui étaient un peu dans leur euphorie la fin de match contre le PSG. Donc je vois un petit peu le soutien retombé et ouais, un match un peu plus compliqué qu'on le pense pour les.
Ouais, pareil, moi je verrais bien. Alors j'avais envie de dire le nul, mais allez, peut-être que Strasbourg peut nous surprendre avec une petite victoire de Strasbourg à domicile pour fêter Noël. Bien sûr, victoire du PSG, hein, j'avais pas donné mon prono pour ce match-là. Toulouse-Monaco, Corentin.
Toulouse-Monaco, aller gagner à Toulouse, malgré leur défaite contre Lyon, on en a parlé tout à l'heure, je trouve qu'ils produisent pas mal de jeux, ils avaient des absents côté Monaco, dernier match contre Lyon, voilà, je trouve qu'ils peinent un peu aussi à trouver leur bonne animation offensive avec Balogun et Ben Yedder, où ils sont un petit peu toujours en délicatesse pour trouver la bonne formule. Pour les mettre ensemble, en tout cas pour la manière la plus pertinente de jouer avec l'un ou l'autre. Cependant, je vois Monaco gagner avec un petit écart.
Ok, et toi Baptiste?
Ouais, moi je suis pareil. Monaco, trop de qualité devant pour que Toulouse ne les craque pas. On n'entend pas beaucoup de Toulouse, mais il paraît que déjà en interne, c'est pas top. Et puis ben, ça se voit sur le terrain, ça commence à se voir sur le terrain. Donc maintenant, je vois beaucoup de difficultés pour Toulouse sur ce match. Monaco il y a cette égalité entre que ce soit Ben Yedder, que ce soit Bamou qui joue ou juste derrière Golovin ou Mbappé, ils ont trouvé la solution à un moment donné et ça va gagner je pense assez facilement.
Ouais, pareil, je vois pas Monaco faire le même match que contre Lyon, ils vont tout louper, donc clairement, moi aussi, victoire de Monaco, assez facile. Clermont Foot, Stade Rennais, oh, gros match.
Deux équipes malades, Clermont, j'ai pas vu tous les matchs de Clermont loin de là, mais j'ai quand même l'impression de ce que je vois, du peu que j'ai vu, que c'est très faible cette année. J'ai parlé brièvement de Rennes et je trouvais aussi décevant. Cependant, je pense que Rennes peut faire un bon résultat et aller chercher une victoire contre Clermont.
Okay. Il n'est pas là vraiment le match de la peur, sincèrement, Corentin.
Ouais, c'est là, c'est clair. C'est un beau petit match de la peur pour Stéphane.
Mais clairement, je trouve pas. Ouais, je suis d'accord, mais clairement, je trouve pas si inintéressant que ça. Sincèrement, je trouve qu'il y a des équipes qui jouent moins bien qu'eux. Alors, le problème, c'est que quand t'as pas de neuf, t'as pas d'attaquant, ce que je veux dire, d'un calibre même Ligue 1, c'est quand même difficile d'exister dans ce championnat. Mais je ne trouve pas si intéressant ça, même contre vous. Ils ont pris 3, certes, mais dans le jeu, il y avait 2-3 trucs qui étaient intéressants. C'est pas non plus. C'est pas Brésil 70, mais sincèrement, je ne trouve pas ça inintéressant.
C'est une équipe qui joue, qui a un jeu pas inintéressant, je suis d'accord avec toi, mais effectivement, ils ont pas grand chose devant, et en plus défensivement ils font pas mal d'erreurs qui leur ont coûté pas mal de buts, typiquement contre Lens, les erreurs du gardien. Il y en a fait quelques-unes d'ailleurs cette année, Joe. À partir de ce moment là c'est compliqué, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi sur le match de la peur, et ouais, un beau match de la peur pour Stéphane qui fait un début de parcours à Rennes assez compliqué aussi, donc ça serait compliqué pour lui de pas gagner ce match.
Non, contrairement, si je devais mettre mon joker sur un match, ça serait peut-être celui-là. Et je sais pas, sincèrement, nul ou Rennes pour la qualité des joueurs, ça, mais sincèrement, ouais. Ce match-là, tu me dis clairement.
Il est pas facile.
Tu me dis que clairement gagne parce que déjà, je trouve qu'à domicile, pareil que Metz, à domicile, ça joue beaucoup mieux qu'à l'extérieur. Donc, sincèrement, le joker, le joker égale nul, un petit nul, un partout de deux qu'on puisse voir des buts, quoi.
Ok. Ouais, sérieusement pareil, hein, c'est vraiment c'est le match qui est pas facile, mais je vais quand même me risquer à dire ouais, un petit 1-0 Clermont, tu vois, parce que Rennes, ils sont vraiment dans le dur. Ils perdent en plus leur première place en Coupe européenne alors qu'ils la tenaient. Enfin bref, Stéphane, c'est pas. Ouais, 1-0, 1-0 Clermont pour moi. Stade de Reims face à Le Havre. Alors, ça, par contre, je pense que ça peut être un match sympa. T'en penses quoi, Corentin?
Je vois un petit nul entre ces deux équipes. Reims qui est alors qui a fait un truc, qui a fait un bon match contre Lens dans ce qu'ils ont produit, mais voilà, qui se prennent totalement contre le cours du jeu. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a une petite déstabilisation en interne avec les rumeurs autour de leur entraîneur. Le Havre qui sort d'une belle perte contre Nice. Ils perdent un match le week-end d'avant contre Strasbourg, je crois, à la dernière minute, genre à la 95e minute. Moi, j'aime bien Le Havre. Alors, je suis peut-être matrixé par le fait que ce soit Mathieu Bodmer qui soit à la direction, mais j'aime beaucoup le personnage du foot français. Mais entre voilà, les petits remous qu'il y a côté Rémois et Le Havre qui peut surfer sur leur victoire contre Nice, je vois bien un petit nul entre ces deux équipes.
Ok, Baptiste, toi, t'en penses quoi?
Ouais, Ouais, pour ma part, moi je pense que Reims va, le faire, va gagner. Ça fait quand même 3-4 matchs qu'ils ne sont pas bien payés, je trouve. Même à Rennes, ils perdent. PSG, pareil. Là, à Lens, c'est compliqué de les voir mener de zéro avec ce qu'ils produisent. À un moment, ça va passer. Bon, après, il va falloir un petit peu être un peu meilleur devant le but, quand même. C'est quand même la base pour marquer. Mais sincèrement, là, sur ce match-là, ça passe. Le Havre, j'étais agréablement surpris, même si je trouve qu'offensivement, quand même, bon, ils viennent de marquer 3 buts, donc ça contredit un peu ce que je dis, mais offensivement, des fois, je sens que c'est quand même un petit peu compliqué. Là, je crois que, là sincèrement, je vois Reims être payé de tout ce qu'ils essayent et tout ça. Donc là, je vois quand même un écart de mouvement sur les deux équipes, surtout que ça se joue à Reims. Une victoire de Reims de 0. 2-0 ou 3, assez aisé.
Ouais, pareil. Enfin, je pense que ça va être un beau match pour le coup, puisque c'est quand même deux équipes qui sont assez joueuses, mais je pense que ouais, enfin, je verrais mal Reims perdre. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, la chance va un peu tourner, et en ce moment, ils ont du mal à capitaliser leurs actions et marquer. Et je les verrais mal encore perdre ce match face au Havre. Donc, ouais, je dirais aussi Reims, un petit 2-1 pour Reims.
Et une petite mention spéciale au petit joueur du Havre, là, Kesta.
Qu'est-ce que
Ah ouais. Quand même, on a un championnat
Bonjour.
assez physique. Ça, lui, il doit faire 1m70. Bon, il va bien un peu, mais peut-être 1m71, il doit faire 70 kg. Et de le voir jouer comme ça, moi, j'avoue que, en plus, numéro 10, donc il se prend les bons numéros 6 de Ligue 1 dans le buffet, et sincèrement, c'est un joueur super intéressant. J'ai adoré ce joueur, mais je l'ai un peu découvert quand même contre le PSG. J'adore sa façon de jouer. Joueur vraiment très intéressant. Techniquement, c'est très propre. Voilà, il est en place pour lui.
Pareil, je valide aussi. Joueur très intéressant. Montpellier, Olympique de Marseille, Quentin.
Montpellier OM.
Ça aussi, ça sent le match bien piège quand même, bien joker.
Ouais, c'est pas le match évident sur lequel ouais, Marseille échoué en Europa League, qui ont perdu leur première place, pardon, qui sont un peu en manque de réussite. Montpellier qui est toujours une équipe difficile à jouer avec leur animation offensive, avec Savanier, Akor Adams, ce que je trouve assez intéressant. Et je ne sais pas si ça aura la Tamari. Il était blessé, je crois, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont une équipe qui est pas évidente à jouer. Marseille qui est pas dans une dynamique folle. Je vois bien un match nul entre ces deux équipes.
Ok, Baptiste.
Après, en Ligue 1, c'est pas mal quand même. Sur 4 victoires d'affilée, je crois. Bon, après, je crois que c'est les 3 derniers plus Rennes, mais bon, en soi, dans le jeu, c'est un petit peu mieux. Et à Montpellier-Marseille, c'est toujours un match un peu particulier où on sait que les Marseillais, ils vont
ça va être chaud, ouais.
Ils vont au stade et, ouais, ils vont au stade et en fait, c'est comme si je jouais à domicile, quoi, en gros. Sincèrement, donc c'est toujours un match un petit peu particulier, ouais, où c'est un peu chaud entre les deux clubs et souvent, déjà, il y a pas mal de buts dans ce match-là. Donc, je mets vraiment à part de tout ce classement rationnel, en fait. Et comme Marseille souvent fait des très bons résultats à Montpellier, je les vois bien gagner là-bas. Alors, je ne sais pas combien, comme d'habitude, j'espère avoir des buts, mais ouais, je vois bien une petite victoire de l'OM. Souvent, Montpellier a un peu du mal, a un petit complexe contre l'OM. Donc, non, une petite victoire marseillaise, mais un match accroché, match bouillant, ça peut être intéressant. Donc, bon, moi, je serai au parc, donc. Ça devrait être intéressant.
Ouais, un match très physique, ouais, avec des beaux petits tacles au genou, je pense, qui peuvent être très sympathiques. Mais ouais, je vois quand même Marseille gagner. Il reste quand même sur une victoire. Alors certes, ouais, comme tu dis, je joue pas des grosses équipes, hein, mais ils sont sur un bon mindset, on va dire. Et Montpellier, bah, c'est pas l'équipe, c'est pas l'équipe la plus ambitieuse, dans le sens où, voilà, quand ça pêche un peu, bon, bah, il n'y a pas ces tripes, on va dire. Donc, je vois bien une victoire de Marseille. Petite victoire de Marseille, pas un truc de fou, mais une petite victoire de Marseille. Et enfin, le dernier match, Stade Brestois contre FC Lorient. Corentin, pour conclure.
Brest-Lorient, je trouve que c'est deux équipes surprises dans deux dynamiques différentes. Brest, je ne les voyais pas du tout proposer un début de saison comme celui qu'ils proposent. Lorient, j'avais bien aimé ce qu'ils proposaient l'an dernier avec Le Brie, mais je crois que c'est un peu compliqué cette année. Je crois qu'ils sont sur 7 matchs sans victoire, Lorient. Mmh. Brest qui n'a pas perdu sur ses 4 derniers matchs. Je ne suis pas hyper fan de cette équipe de Brest, mais étant donné les dynamiques diamétralement opposées, je vois quand même Brest gagner dans ce derby breton.
Ok. Et toi, Baptiste ?
Ouais, pareil, je vois Brest passer assez facilement. Tu sais, tu parlais quand enfin des équipes qu'on ne parle pas beaucoup à Rennes. Là, c'est Lorient, moi je trouve qu'on n'en parle pas énormément. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes attentes avec Rennes qu'avec Lorient. Mais j'ai l'impression que le bateau il coule et tout le monde s'en fout un petit peu.
Ouais.
Et de voir leur match, ils en prennent 4. Ils en prennent 4 contre l'OM en 8 ans. Il n'y a pas de réaction. Il y a plein de matchs où tu te dis, mais où est Lorient? Et l'année dernière, c'était plutôt super intéressant ce qu'ils proposaient. Là, ils sont quand même allés perdre à domicile et contre Strasbourg, quoi. Sincèrement. Ils ont perdu contre Metz à domicile. Les derniers matchs sont assez catastrophiques. Et moi, Brest aussi, au départ, je n'aimais pas trop. Et là quand même, ils m'ont bien pris contre les contre-Nantes. C'était un match plutôt plaisant. Je le trouve super solide. Le milieu, Lesmelou, Camara et Magnetti, c'est pas du très grand foot, mais c'est super cohérent.
Lesmelou, s'il te plaît. Monsieur Lesmelou.
Il m'impressionne, sincèrement, il m'impressionne. Tous ces matchs, donc, quand même, le vrai patron du milieu et tout. Et devant, moi, j'ai toujours aimé le Doiron. Je ne sais pas pourquoi j'ai aimé bien ce joueur, mais j'ai toujours bien aimé ce joueur-là. Donc, un peu moins fan de Meunier. Mais sincèrement, c'est une équipe. Elle clique cette équipe, ça marche. On sent qu'elle prend du plaisir ensemble et des fois, il n'y a pas de. Des joueurs qui font bien leur rôle, une équipe plutôt bien coachée. Moi aussi, ça me surprend parce que j'étais pas à la base fan d'Eric Roy. Non, c'est une équipe super intéressante, Brest, avec un style de jeu particulier. Et sur ce match-là, ouais, je les vois aussi pareil assez facilement s'imposer. Lorient qui est selon moi à la rue, quoi.
Ouais, je vous suis à 100% là-dessus. Je vois une victoire brestoise, en plus, surtout que c'est à domicile, il me semble. Donc, je vois pas, sauf grosse surprise, sauf grosse catastrophe, mais je vois pas Brest perdre. Et je les vois même gagner 2-0. Eh bien, messieurs, merci pour
Je suis d'accord avec. Avant de.
Ouais, vas-y. Je te laisse finir, Corentin.
Non, excuse, je disais avant de clôturer pour rebondir sur le sujet de ce que tu disais, Baptiste, sur Lorient, le fait qu'on n'en parle pas, ça mériterait peut-être un petit sujet dans Stadium Ligue 1 d'Est. Je te le soumets, voilà, tu en fais ce que tu veux, mais
avec plaisir.
Des clubs qui appartiennent à un président qui détient d'autres clubs, tu vois, un peu comme Lyon Textor avec Lyon Crystal Palace, Lorient Bournemouth, Strasbourg Chelsea. J'ai pas l'impression que ce serait intéressant d'en débattre, mais. Voilà, c'est un format, je trouve qu'il est pas. Enfin, moi, je suis pas fan de ce genre d'organisation. Quand tu vois les performances, 3, ouais.
Et t'as l'étage inférieur, 3, c'est ça. C'est une catastrophe absolue, quoi.
Ouais.
Ah, ouais. Et avec le projet Guardiola, Mbappé qui t'explique qu'ils utilisent les méthodes Guardiola. Ouais, je crois qu'ils sont dans les derniers de Ligue 2, donc non, c'est sûr que non, moi je suis assez d'accord, c'est un super sujet parce que là on voit que ça, que ce projet est piétine, quoi. Et c'est tout le monde.
Lyon à part parce que c'est le gros du de, c'est le plus gros de Techstars, mais le Strasbourg, Lorient avec Bournemouth et Chelsea, je suis assez sceptique et je trouve que leur dynamique elle témoigne d'un problème.
Et Toulouse aussi. Hein. On n'en parle pas, aussi, Toulouse aussi. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais, un petit sujet hors saison, ça peut être sympa. Ouais.
Yes.
Non, voilà. Toulouse, après, je pense que Toulouse, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. C'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, ouais, les dynamiques sont. Je pense pas que ce soit une cause de silence que toutes ces dynamiques de club soient pas bonnes. Quoi. Et puis, même sur le fait même de comment se sent le supporter qui sait qu'en fait, que le club, c'est le deuxième club, quoi. C'est dans un peu plus oratif, la CFA ou l'équipe réserve. C'est pas une sensation géniale en tant que supporter. Je sais pas, moi je me mets à leur place et ça m'emmerde un peu.
Non, je suis d'accord, mais complètement y réfléchir, je pense que ça peut faire un très bon sujet hors saison. Ouais. Et avec toutes les trêves qu'on a, on peut caler ça à un moment. Messieurs, je vous remercie hein, pour ce long épisode, hein, de m'avoir accordé tout ce temps-là. Je sais que vous avez du mal à vous libérer, donc ça me fait plaisir que vous soyez libérés pour cet épisode. Merci à vous hein, pour cette écoute. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc Instagram, X et maintenant aussi sur Threads. N'hésitez pas à nous écouter aussi sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify, Apple Music, Deezer et le reste. En attendant, on vous souhaite un bon, j'allais dire week-end de foot, mais non, ça va être un bon mercredi de foot, un bon multiplex, et on se retrouve pour un prochain épisode qui sera sans doute lié au chant des supporters. Allez, on vous souhaite une bonne journée, une bonne 17e journée dans le meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.